Eh ben bonjour tout le monde, ou rebonjour. Je suis déjà, enfin, ça a été dit, tout le monde est content d'être là, mais je le suis aussi. aussi pour une raison, parce que souvent les gens, quand on nous demande qu'est-ce que tu fais, sur quoi tu travailles, etc. Je sais qu'il y a toujours, en particulier quand c'est des gens qui sont néophytes ou qui n'ont pas les mains du tout dans le cambouis de Max ou d'autres outils comme ça, je sais que pour moi, c'est toujours difficile d'arriver à expliquer ce que je fais sans parler du tout, en me mettant complètement de côté la partie technique, la programmation, tout ce que ça implique et tout ce que ça... Enfin, comment tout ça est tellement intriqué tout le temps que je suis souvent un peu dépourvu... dire en fait je fais ça, mais alors sans rentrer dans les détails, c'est pas tout le temps évident. Du coup là, se pouvoir s'autoriser un peu de rentrer dans des détails, c'est pas mal, ça fait assez plaisir. C'est d'autant plus pratique aussi que là je vais vous parler d'un travail que j'ai commencé il y a deux ans et quelques à travailler autour des descripteurs audio pour plusieurs choses et donc voilà, je suis en train d'expérimenter avec un peu tout ça dans pas mal de directions et c'est ça dont je voulais vous parler un peu, la partie technique, mais aussi qu'est-ce qui moi m'a intéressé là-dedans, en fait pourquoi j'en suis arrivé à ça. Je fais juste un tout petit retour en arrière pour me présenter, puis un peu pour du coup aussi donner deux trois infos de ce que j'ai pu faire avant et puis pourquoi ce projet d'expérimentation est arrivé. J'ai travaillé au GMEA à Albi, donc un centre national de création musicale, où j'ai été là-bas, je crois que l'intitulé était chargé de recherche et développement ou quelque chose dans ce genre-là. Mais donc concrètement, j'avais un peu deux missions. Une part vraiment plus de recherche, de réflexion, de développement, d'outils, de dispositifs. Je sais qu'on a évoqué l'environnement Jamoma hier. Et c'était notamment un des endroits de travail, quoi. De réfléchir à comment on architecture des logiciels pour qu'ils communiquent avec d'autres logiciels, etc. Comment on structure des patch max, comment on fait des presets, comment on organise un peu tout ce travail. Donc le projet Jamoma, et puis après le projet la librairie Ossia, qui a été un peu un prolongement de ces réflexions-là. Donc ça, c'était une première partie de mon travail, et puis l'autre partie, qui était plus un travail de rime, du coup, de développer les dispositifs avec les artistes qui étaient invités à faire des créations dans le centre. Et du coup, sur la partie plus de réalisation de dispositifs, à l'époque, il y a eu un axe de création et aussi techniquement de beaucoup de choses autour de l'espace, avec alors dans la tradition électroacoustique à la fois de prises de son, de travailler avec des prises de son, beaucoup de prises de son en multi-microphonie, notamment avec mon collègue Benjamin Momus, qui a travaillé beaucoup là-dessus, sur des prises de son en hexaphonie, comment on enregistre un espace, comment enregistrer un espace avec différents points d'écoute, etc. Et puis, comment remettre ça en jeu soit dans le cadre d'un spectacle, soit d'une installation. Et notamment, j'ai pu faire beaucoup d'outils de lutherie pour manipuler, pour écrire écrire des déplacements d'espace, comment on va rediffuser des enregistrements d'espace dans un autre espace, et comment jouer avec ça, comment interpréter tout ça avec des différents capteurs, etc. Donc ça a été une chose qui m'a beaucoup occupé. Et puis parallèlement, dans ma cave, enfin dans mon bureau, mais qui peut ressembler à une cave, il y a aussi toute une autre partie qui m'a longtemps fasciné, de travailler avec des synthés modulaires. Et notamment, j'ai passé beaucoup de temps à faire des patchs, alors cette fois-ci analogiques, et avec de travailler avec de l'aléatoire, de chercher des comportements comme ça un peu chaotiques où il y a des choses qui vont se développer, des comportements qui vont émerger, puis ça se transforme. Donc ça, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment fasciné, même si c'est resté finalement qu'un truc personnel pour moi de comprendre des choses, et jamais il n'y a pas eu de production avec ça. Pourquoi je dis ça, c'est plus parce que finalement, du coup, d'approcher les choses en travaillant sur ces descripteurs audio, ça a permis un peu d'imbriquer un peu toutes ces choses qui m'intéressaient entre le travail de l'espace et des choses d'aléatoire. Voilà pour ça, petit un peu préambule, disons. En fait, il y a quelques années, tout le temps où j'étais au GMEA, il y avait pas mal de beaucoup un gros travail de prise de son, mais qui était donc pas sur lequel moi je travaillais pas directement. Et après mon poste au GMEA, j'ai commencé à travailler ça, à faire du field recording. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui était aussi, un moment où j'étais un peu marre de Max, j'avais un peu mis de ça de côté et de pouvoir juste simplement se balader avec des micros, enregistrer, écouter des espaces, les choses qui s'y passent, de revenir à la maison, d'essayer des choses de montage dans un logiciel de montage en faisant juste tiens, je coupe mon son et puis je le monte bêtement. C'est des choses que j'avais un peu oubliées et du coup c'était assez satisfaisant. Mais j'ai vite été rattrapé après par les envies de pousser un peu le bouchon. Et notamment, il y avait un peu deux choses qui m'ont posé question dans cette pratique de la prise du son. C'est très personnel, très solitaire comme pratique. D'aller se promener et puis d'enregistrer, ou même des fois juste écouter ce qui se passe. Donc la question, c'était comment transmettre ça, comment partager cette expérience là et puis il y avait aussi en fait, de manière un peu pas égoïste, mais disons que moi, j'ai essayé de commencer à faire des montages comme ça de prise de son, et en fait assez vite ça m'ennuie. Dès que je commence à reconnaître les prises de son, ça me sort de l'écoute dans laquelle je suis quand je fais la prise de son, et du coup ça m'a un peu ça m'a donné envie de trouver comment remettre ça un peu en jeu pour le public et pour moi. Du coup, j'ai commencé à expérimenter un peu par hasard, à vrai dire. Je m'étais penché sur la librairie Mubu et puis j'ai découvert, en tout cas un peu plus concrètement, tout ce qu'on pouvait faire en analysant des prises de son et puis en voyant ce qu'on pouvait manipuler avec ça. Et ça, voilà, ça a ouvert un peu des choses. Je regarde juste si j'ai oublié un truc. Pas forcément. Okay. Hop. j'ouvre juste Reaper pour vous faire écouter une petite prise de son qui est là. Hop.
Je ne sais pas si tu projettes des choses.
Non, pour la, je vais y venir, mais là pour l'instant c'est pas. Enfin, sauf si vous voulez voir un projet Reaper avec un fichier son, mais. Bon. Pour l'instant, par contre, j'ai. Il trouve pas ma carte son, comme ça. Ça, c'est bien. Ouais. Alors, t'es pas content. Si je fais ça. Hop. Est-ce que c'est mon web? Ok.
Elle est pas vue là. T'as
ouais, c'est ça. Ben ouais, il s'est ouvert.
Parce que là, elle est pas vue.
Et là, elle apparaît.
Ah ouais.
Ouais.
Ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Elle était plantée.
Beaucoup mieux, beaucoup mieux.
C'est bon, pas l'optimisme.
Bof. Ouais, qu'est-ce qu'on peut lui faire, lui ? Est-ce qu'elle apparaît bien là ? Ouais, elle apparaît. Oh, c'est bizarre. Ouais.
Elle est en 32 000 là.
Bah oui, je sais pas pourquoi. Non.
Donc mais... c'est qu'elle n'est pas vue. Pour moi, c'est qu'elle n'est pas vue.
Oups. Ouais, c'est peut-être juste l'adaptateur.
Ok. Et là.
Ce qui est bizarre, c'est qu'il se lance pas le truc en fait. C'est moi qui l'ai lancé à la main.
Peut-être que t'aurais pas le bon driver.
Ouais. Sinon, ah oui, ça peut, ouais. Comment ? Non, je les ai pas. Après, pour après, j'ai ma carte son, mais... Ah oui, ouais. Le petit effet démo... Désolé.
Sinon, il y a la dernière option.
Oh, mais elle apparaît.
Okay. Elle apparaît.
Ouais, ok. Ça marche. J'ai un peu perdu le fil du coup avec tout ça, mais si je voulais juste vous faire écouter commencer par faire écouter un exemple de prise de son, alors hyper brute, et voilà, de choses qui m'intéressent dans ce type de prise de son. Du coup, je garde la main là-dessus au cas où. Hop. Ah, pardon. Ouais. on va pas tout écouter parce que ça dure. Enfin, ça peut durer longtemps, mais c'est en tout cas des choses comme ça que je qui m'intéresse à enregistrer et les diffuser. Après je coupe un peu brutalement, mais les questions que je me suis posées là-dedans, c'est en fait pourquoi comment rediffuser ça un truc qui me titille, c'est parce que souvent dans ce type d'enregistrement, en fait, c'est mon écoute, elle va être attirée par des petits détails de un rythme, quelque chose comme ça. Comment arriver à mettre l'écoute là-dessus, sur ces détails qui, moi, m'intéressent, et que si je les diffuse comme ça, en fait, après, chacun va écouter ce qui l'intéresse là-dedans. Et donc, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet, avec ces histoires de descripteurs. Hop. Si je suis pas clair, faut pas hésiter à me couper et poser les questions. Hop. J'ai rien qui s'est pas décidément. C'est bon. Hop. Là. Donc le petit éditeur que je me suis fait. Essentiellement après, avec la librairie Mubu, dans lequel j'envoie toutes mes prises de son. Hop, en l'occurrence, ce qu'on vient d'écouter, c'est celle-ci. Hop. Du coup, ça me permet de. Je passe pas mal de temps à explorer ces prises de son. Donc il y a plusieurs étapes. Je sais pas si tout le monde connaît un peu, enfin travaille un peu avec c'est de quoi il s'agit, mais une première phase d'analyse pour segmenter les prises de son. Là sur la droite, j'ai différents algorithmes pour segmenter, repérer les événements marquants. Donc je vais essayer celle-ci, par exemple. Hop.
Là, c'est segmenté selon des critères.
Oui, là, c'est sur l'amplitude, en l'occurrence. Hop. Donc, à chaque fois que l'algorithme détecte en l'occurrence un changement d'amplitude, il me met un marqueur, et donc on a une collection comme ça de marqueurs qui viennent segmenter la prise de son. On peut laisser de manière automatique comme ça, et souvent après je passe beaucoup de temps à réécouter, évidemment, choisir. En fait, ce qui est marrant là-dedans, c'est que l'ordinateur, il détecte des choses, soit qui m'intéressent, soit aussi qui ça révèle des choses qui sont intéressantes après à travailler. Donc il y a tout le temps un peu un aller-retour entre les deux, de laisser faire l'ordi, ce qui moi m'intéresse du coup de découvrir des choses. Et puis aller, après si je veux, moi, si j'écoute et qu'il y a un moment qui m'intéresse, de rajouter des marqueurs sur des moments un peu saillants comme ça. Et donc après il y a toute une batterie de descripteurs accessibles. Alors dans l'état, il y a, en fait, quand j'ai fait cet outil-là, je me suis dit bon, je fais tout, enfin je garder un maximum de choses. Donc il y en a plein, il y en a que j'utilise pas vraiment pour l'instant, mais qui sont plus là au cas où. Donc si je fais tout bêtement une analyse d'amplitude, il calcule son truc, que je peux afficher. Hop. Donc là, pour ça que chaque segment, c'est l'intensité détectée. Et puis, si j'en fais un autre, le centroïde, par exemple. Voilà. Il a fait l'analyse. Et du coup, tout ça, après, ça me permet de naviguer en fait dans les fichiers son, dans ces prises de son, mais selon des critères. Donc si je... mon centroïde est là. Donc si je... Hop. Marche. Donc là, c'est vraiment des lecteurs tout bêtes aléatoires pour aller piocher des extraits et voilà les remonter. Mais c'est vraiment là, on est sur la partie analyse, donc c'est un peu le travail préparatoire. Ce qui m'intéresse, en fait, ce qui m'a vite fasciné dès que j'ai commencé à expérimenter avec ça, c'est que le fait qu'il y ait des comportements, si on écoute les oiseaux par exemple, bon, on peut reconnaître les comportements que faisaient ces oiseaux. Par contre, tout le bruit de fond, du coup, qui était pas forcément, qui pouvait ne pas être au premier plan, disons, dans l'écoute, tout d'un coup, tout ça se révèle. Donc ça m'a intéressé. Et du coup, ça m'a intéressé de construire un instrument pour jouer tout ça, faire du micro ou du montage en direct, en fait. Ce que je vous montrerai, du coup, tout à l'heure. Juste après là. Donc ce... Pardon, je me perds un peu dans mon patch, comme d'hab. Donc voilà, bon, je prends trop de temps, mais du coup, toute cette exploration, ça a dessiné un peu deux choses. Donc comme je le disais, un instrument de jeu où je vais que je vais vous montrer et puis faire essayer aussi si vous le souhaitez juste après là. Il y aura une petite courte pause et puis j'installerai ce dispositif là. Et puis ça a aussi fait tout un travail pour faire une installation sonore. Donc voilà, je vois que l'heure a tourné, donc je vais juste présenter un exemple en mode d'installation comme ça de choses génératives sur un projet que j'ai fait dans une école avec des enfants Une classe de quatrième dans un collège à Nantes, enfin le banlieue de Nantes, où on a eu une semaine pour faire une installation sonore avec eux. Et l'idée, c'était de leur donner de la voix, tout simplement. Donc, il y a eu un peu plusieurs étapes où je les ai enregistrés à lire. En l'occurrence, ils voulaient travailler sur les émotions. Donc, je les ai enregistrés lire des définitions des différentes émotions qu'ils avaient choisies. Et puis, en parallèle, ils ont été faire plein de prises de son dans le collège. Et donc à partir de les enregistrements de voix et les enregistrements que on fait, je les ai donnés à analyser. Et puis après, on a imaginé plusieurs petits modules pour relire ça. À partir de leurs enregistrements de voix, d'avoir des principes de permutation. Ou du coup, de parfois lire les échantillons dans le bon ordre ou dispatcher aléatoirement, remonter leur voix, ou demander d'aller chercher, par exemple quand une voix est élue, d'avoir des petits principes, d'aller chercher dans les sons le son qui, selon différents descripteurs, le son qui ressemble le plus à la voyelle, par exemple, qui a été jouée. Donc, je vais peut-être juste faire écouter quelques exemples de ça. Hop, je rouvre. Moi, bon, ce Sion Reaper, qui est où, là?
Selon certains philosophes grecs, notamment Aristote, la colère peut faire souffrir celui qui l'exprime et peut être ainsi considéré comme une passion. La colère est un état affectif violent et passager. Le résultat du sentiment de l'impression, un désagrément, une frustration.
Le rire est essentiellement causé par une situation comique, le chatouillement ou le rire lui-même.
Des baisses d'humeur accompagnées.
Bah, je fais écouter quelques-uns. Après, c'est quelques exemples d'enregistrement de ce qui était généré en direct. Alors, je dois dire, j'avais fait, moi, de mon côté, plein d'essais d'enregistrement de sons qui s'apparentaient à de la voix, enfin, qui s'apparentaient, non. En tout cas, qui marchaient bien avec des enregistrements de voix. Et il y avait des choses vraiment qui m'intéressaient beaucoup dans le phrasé, parce qu'on... Même en remplaçant, en supprimant complètement la voix et en la faisant jouer avec n'importe quel son, on reconnaissait quand même un débit, un phrasé, etc. Évidemment, là, à partir du moment où les collégiens ont eu les petits enregistreurs et ont été quartier libre dans tout le collège pour enregistrer tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, il y a eu une part d'aléatoire encore plus importante que je l'avais prévu. Mais voilà, en tout cas, c'est du coup plus dans cette approche-là une installation qui génère tout le temps en continu, qui fait ce montage en direct.
Et comment est-ce que tu l'as choisi, juste l'ordre dans lequel tu lis les petits sons,
Du coup, il y a en parallèle, c'est avec la librairie Mubu, donc je chargeais les voix d'un côté, et puis il y a un lecteur avec l'objet concat qui lit soit les échantillons un par un, puis il y a différents paramètres d'aléatoire pour aller piocher un ou un quelque chose. Enfin, pardon, excusez-moi, je suis malade en plus. Pour aller piocher différents endroits. Et ça, parallèlement, il y a un autre lecteur qui, lui, reçoit l'échantillon de voix qui a été joué et puis de filtrer par descripteur et dire, tiens, dans les sons d'objets, etc., va trouver le segment de son qu'a le descripteur les plus proches. Donc, et ce plus proche, il peut être un peu loin aussi, quoi. Donc, du coup, la voix, elle fait vraiment office de séquenceur. Et après, c'est les objets qui sont joués. Je ne sais pas si...
Ouais. C'est juste aléatoire, du coup, les voix. Enfin, les échantillons de voix, c'est des processus aléatoires.
Ouais. Oui, oui. Oui, oui, après, il y a eu différentes règles comme ça, de dire, tiens... Parce que après l'installation, il y avait... Il y avait plusieurs haut-parleurs qui correspondaient au groupe d'enfants. Donc, il y avait plusieurs règles en disant va piocher que les voix de tel et tel enfant parce que c'est les sons qu'eux, ils ont fait, ou de dispatcher complètement différemment. Enfin, voilà, il y avait des moments comme ça pour changer les comportements, en fait, les règles. On est time out. Bon, pardon, du coup, je suis un peu parti dans tous les sens, mais la bonne nouvelle, ou la mauvaise, j'en sais rien, mais le fait est, en tout cas, qu'on, j'ai installé après le dispositif de jeu pour vous montrer aussi ça un peu plus en jeu, tout simplement. Et je pourrais, moi, jouer, et aussi, si ça vous intéresse d'explorer tout ça, d'explorer ces prises de son, voilà, vous pourrez prendre la main dessus.